BFM Business, c'est votre argent. Marc Fiorentino.
Oui, je sais, c'est le chaos total et ça ne va pas s'arranger, mais moi j'ai trois bonnes nouvelles pour vous. C'est votre argent, c'est votre week-end. Alors ça devait être une émission exceptionnelle, mais finalement ça sera pas une émission exceptionnelle, ça va être une émission spéciale, spéciale élection législative. Évidemment, on va revenir sur tous ces événements dingues qu'on a connu cette semaine, sur la bourse qui décroche, sur la tension sur les taux d'intérêt. Évidemment, on va regarder ça avec un prisme purement économique et financier. Ce n'est pas une émission politique, je tiens à le préciser. Et donc, on va parler des conséquences de ce qui se passe actuellement, mais aussi des conséquences, des scénarios qui sont envisageables d'un point de vue politique sur l'économie, sur la finance, les finances publiques et évidemment sur votre argent, sur vos placements. On est submergé depuis quelques jours par des questions d'épargnants inquiets. L'inquiétude, on la voit, hein, elle est sur la bourse, hein, on l'a vu avec le décrochage. On va essayer de répondre à ces inquiétudes. Je ne dis pas qu'on va essayer de vous rassurer, je ne suis pas sûr qu'on vous rassure, mais on va essayer de répondre à ces inquiétudes au sommaire. Donc aujourd'hui, le seul mot de la semaine, c'est dissolution. La question et le chiffre de la semaine, ça va être l'écart de taux entre la France et l'Allemagne. C'est l'indicateur de nervosité avec le CAC 40 et évidemment avec l'euro. On n'a plus de francs, donc heureusement d'ailleurs. L'écart de taux entre la France et l'Allemagne. Deuxième partie de l'émission, c'est est-ce que la bourse de Paris va-t-elle résister à la crise politique ? On voit bien qu'elle a décroché près de 6% en une semaine et ça ne s'arrête pas. Est-ce que ça va aller mieux ? Où est-ce ? Et ça sera la question suivante que je poserai à nos spécialistes. Dans ce contexte, quel placement privilégier ? On voit très bien qu'il y a une tension sur les taux d'intérêt, mais d'un autre côté, il y a une sorte de flight to quality, c'est-à-dire que les gens qui sortent de la bourse vont sur les placements obligataires et du coup, ça limite la hausse des taux d'intérêt. On a des spécialistes des valeurs bancaires qui ont été très attaqués cette semaine, qui va essayer de nous expliquer pourquoi ces attaques, est-ce qu'elles vont continuer, le top ou le flop de la semaine, le top 3 des gérants. Vous verrez qu'il y a encore des gérants qui arrivent à avoir des performances, et il y en a sur le plateau, des performances positives dans ce contexte, les actions à acheter ou vendre. Mais vous le savez maintenant, pour une émission spéciale, il faut des invités spéciaux. J'ai donc l'immense plaisir de vous présenter notre Jedi de l'économie et de la finance. Et pour des événements comme celui-là, il fallait taper fort. Alors à chaque fois qu'elle vient, je progresse en économie. Mais comme je viens de loin, comme le dit Emmanuel Le Chypre, on aura encore besoin d'elle longtemps. Anna Boata, vous êtes directrice de recherche économique d'Alliance Trade. Merci d'être venue. Il me dit que je suis nul en économie tout le temps, donc j'ai besoin de gens comme vous.
Tout est relatif.
Mais bon, j'accepte ces critiques, elles me vont très bien, je suis là pour apprendre. En cette période de totale irresponsabilité, c'est vraiment le cas de le dire, nous avions besoin d'une personne responsable. Qui mieux que Léa Dunant-Châtelet, responsable de l'investissement responsable chez DNCA Finance. Alors on a besoin de vous, là.
C'est peut-être ma dernière émission, marche au chômage technique, moi. Fini les politiques, environnementales, tout ça est derrière nous.
Vous pensez vraiment ?
En tout cas, c'est un enjeu, c'est sûr.
Fini la responsabilité aussi.
Oui.
Si j'étais vraiment riche, mais bon, de toute façon, le problème se posera plus dans quelques semaines, je confierais tout mon argent à ce monument de la gestion en France, Moneta AM, et son directeur général, vous le connaissez bien, puisqu'il vient régulièrement, et il s'est illustré brillamment dans la battle que je vous conseille de regarder, bourse contre private equity. André Chkavalek, merci d'être avec nous, toujours un plaisir de vous recevoir. On est d'accord sur rien, vous le savez. Et d'ailleurs, on a commencé déjà à s'engueuler avant que l'émission démarre. Mais on ne peut pas se passer de lui ici dans l'émission. C'est l'incontournable et l'irremplaçable Emmanuel Le Chypre. Emmanuel, merci. Bonjour. Je sais que vous faites un marathon là sur toutes nos antennes avec les événements et que vous êtes très sollicité. Donc merci d'être là.
Je peux
là.
Vous faire une confidence. Ouais. Ce moment avec vous et avec nos invités est le plus délicieux de la semaine.
Ah, c'est sympa.
Par rapport aux émissions avec les commentateurs politiques sur les petits débats de qui sera à tel poste.
On va essayer de prendre un peu de hauteur.
C'est dur.
Bon, ça ne m'empêchera pas, parce que vous avez fait un compliment, de ne pas être d'accord avec moi. Allez, dissolution, qui c'est celui-là ? Emmanuel Macron, victoire de l'extrême droite française aux européennes, dissolution surprise, Front populaire, Front républicain ou Front de je ne sais pas quoi encore. Tout le monde y va de son anticipation, comme le disait Emmanuel, tout le monde y va de son commentaire, de sa petite prévision, de sa petite bataille, de son poste. On voit que pour garder son poste, on est prêt à tous les compromis. Mais ça, c'est pas une surprise. Nous, on va se contenter d'analyser l'impact de cette crise politique en France et en Europe aussi, uniquement pour l'instant d'un point de vue économique. Et puis tout à l'heure, on va parler de placement. Alors, on connaît, même en écrivant ça, je me suis dit, on connaît les scénarios possibles. Je sais même pas si on les connaît. Mais allez, disons qu'on en connaît quelques-uns, la victoire du RN, la victoire du front que je n'arrive pas à appeler front populaire parce que j'ai trop de respect pour Léon Blum, le front de la gauche ou l'absence de majorité absolue et des majorités très relatives. Alors d'abord, on va essayer de prendre un tout petit peu de recul. Est-ce que ce que je donne comme scénario, Emmanuel, c'est les scénarios probables ou déjà je suis à l'ouest?
Non, ce qui est très compliqué, c'est que le champ des possibilités, le champ des combinaisons possibles sur le plan politique à l'issue de ces législatives, il est extrêmement vaste. Et ce qui est compliqué,
il est si vaste que ça.
Oui, il est vaste parce
pourquoi
que
si vaste?
Bah, en gros, soit vous avez une coalition plutôt extrême droite et des gens de droite qui auront bien voulu la rejoindre, soit vous avez une coalition qui sera une coalition plutôt donc nouveau Front populaire. Soit vous avez une coalition qui sera faite avec les macronistes, bon, voilà, des gens venant de la gauche raisonnable.
On a trois scénarios.
On a trois scénarios, mais vous voyez bien que même si... Alors, on peut simplifier avec ces trois scénarios, sauf que ces trois scénarios impliquent des choses extrêmement différentes en matière
absolument
de finances publiques.
Absolument, non, je suis d'accord avec ça.
Oui, mais ce que je veux dire, c'est que dans un premier temps, déjà, cette période d'incertitude totale a un impact économique
énorme, et on le voit sur les marchés. J'ai envie de commencer tout de suite avec vous, Anna Boita. Oui. Parlons directement, on va essayer d'être précis, d'expliquer aux gens qui nous écoutent. Oui. C'est pas des grandes théories, on a des programmes maintenant. Le programme du Rassemblement National, d'un point de vue économique et fiscalité, c'est quoi?
Oui, après, je suis d'accord qu'il faut prendre des hypothèses aussi sur le poids de cette coalition du Rassemblement National. Puisque le programme en lui-même, effectivement, on a à peu près maintenant, une fois qu'ils ont annoncé qu'ils veulent plus privatiser les autoroutes et que la réforme des retraites n'est plus du tout d'actualité, en tout cas mise en pause, ça nous fait gagner...
C'est déjà une bonne nouvelle. Hein.
C'est déjà une bonne nouvelle parce que ça nous fait quand même gagner à peu près presque 70 milliards de moins de dépenses publiques. D'accord. Dans un environnement où, de toute façon, la France, elle est au centre de l'attention par rapport à l'état de ses finances publiques.
Évidemment.
Donc là, on est à peu près à 75 milliards de dépenses additionnelles, que ça soit un petit peu dans tout ce qui est santé, que ça soit un petit peu dans des mesures de pouvoir d'achat, un petit peu de mesures aussi pour les entreprises, dans la réduction de la taxe sur la production. Donc il y a quand même un mix
fiscalité
de mesures. Fiscalité, il y a un petit peu de mesures vraiment pour les jeunes, auto-entrepreneurs, pour qu'ils payent, pour qu'ils soient exemptés en fait de...
Remise en cause de la flat tax ou pas?
Non, pas de ce que je
connais. D'accord, donc
connais.
Pas d'alourdissement. Sur l'impôt sur les successions, il y a des choses qui sont prévues ou pas encore?
Pas
Emmanuel, il y a sur la taxation, vous avez sur la fiscalité, qu'est-ce qu'on dit du côté RN?
Alors, il y aura quand même sans doute des mesures pour taxer les plus riches.
Donc ISF, un retour de l'ISF.
Vous n'y couperez pas non plus avec le nouveau front populaire.
Ouais, non, là, pour l'instant, restons sur le Rassemblement National.
Et il y a beaucoup de... Alors, vous êtes jeune,
ouais.
C'est vraiment un paradis fiscal. C'est-à-dire qu'on vous ne payez pas d'impôt sur le revenu. C'est vraiment vous ne payez plus d'impôt. Vous êtes, on vous fait des taux bonifiés pour vous loger, etc. C'est
d'accord.
Beaucoup
alors,
de baisse d'impôt.
Maintenant, Anna nous a dressé le tableau un peu sur le programme du RN, ouais. Le programme du Front de gauche.
Ah bah c'est très simple, c'est le même depuis 40 ans, hein, celui que vous entendez régulièrement à chaque élection, c'est-à-dire on augmente le SMIC, donc là ce sera 1600 euros net. On indexe les salaires et les pensions de retraite sur l'inflation, on ramène la retraite.
Ouais, c'est très important. Hein,
on ramène, oui.
C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle nous l'inflation de second tour.
Absolument.
C'est parce qu'on n'avait pas cette indexation qu'on n'a pas eu cette spirale inflationniste.
On revient sur évidemment la réforme des retraites pour faire baisser l'âge officiel de départ à la retraite. Donc c'est quelque chose d'effectivement.
On supprime la flat tax.
Extrêmement classique. Oui, on remet l'impôt sur la fortune.
On remet l'impôt sur
absolument
la fortune. D'accord, ça c'est quand même important. Et on alourdit de façon très significative l'imposition et la taxation sur les successions.
Oui, mais en même temps,
c'est ce qui est écrit. Hein.
Oui, mais en même temps, vous voyez bien que d'un côté comme de l'autre, les ordres de grandeur entre ce que vous dépensez en plus et ce que vous êtes supposé encaisser, on est dans l'ordre de 1 à 10. C'est-à-dire qu'en gros, bon, 100 milliards, effectivement, ce ne sera pas 100 milliards le Rassemblement National, puisqu'ils sont déjà revenus sur certaines choses. Ce sera à peu près du même ordre de grandeur du côté du nouveau Front Populaire. Et les recettes nouvelles qui sont mises en face, c'est de l'ordre de la dizaine de milliards. Rappelez-vous, vous remettez l'impôt sur la fortune, c'est quoi? C'est 3-4 milliards.
Évidemment. Et encore.
Milliards. Et voilà. Et puis après, le RN qui veut aller chercher, par exemple, alors c'est ce grand truc de la lutte contre la fraude fiscale.
Ouais, ça,
on va juste rappeler rappeler que l'administration française fait l'admiration des administrations du monde entier, évidemment. Qui envoie des missions à Bercy pour voir comment on fait, nous, pour recouvrer l'impôt.
C'est notre meilleure exportation de services.
Voilà. Et donc, vous voyez bien qu'il y a quand même un énorme sujet dépenses publiques. Enfin, finances publiques.
Quelle est la marge de manœuvre d'un Premier ministre, qui soit RN ou issu du Front de Gauche, puisque la troisième hypothèse, on va dire que bon, ça sera quelque chose qui risque de ressembler à ce qu'on a connu jusqu'à présent. Quelle est sa marge de manœuvre par rapport à l'Europe? Quelle est sa marge de manœuvre par rapport à son président? Quelle est la marge de manœuvre? Là, on parle uniquement économique, fiscalité.
Oui.
C'est-à-dire, quand on a ce type de dépenses, qui est-ce qui dit ben non, c'est juste pas possible d'avoir un déficit qui monte à 8%.
Bah déjà la semaine prochaine, bon, malheureusement le timing n'est pas idéal, mais le 19 juin on a un rapport dans la Commission européenne qui va justement mettre en exergue les pays qui ne respectent pas les règles budgétaires puisqu'on les a remis en place. La France va en faire partie, l'Italie, la Belgique, et donc du coup quelle est la prochaine étape? C'est la procédure de déficit excessif. Si en fait la France n'arrive pas à ramener de la crédibilité sur la trajectoire des finances publiques.
N'est pas terrible, je veux dire, ok, elle est pas dramatique. Mais
en fait, il faut comparer, on aime bien en ce moment comparer la France à l'Italie, puisque l'extrême droite... Mais si on compare les finances publiques de l'Italie, certes, ils sont pas dans un meilleur état non plus, mais là, l'Italie, elle a encore droit à 3% du PIB de fonds européens qui vont absorber, avec un multiplicateur de 0,5, ça peut créer, sur deux ans, encore 1,5 de croissance.
On parle de 200 milliards, hein.
Oui, mais en point de PIB, je veux dire. Donc ça peut aider un dérapage budgétaire, puisque en face, on a plus de croissance. C'est pas du tout le cas de la France. Et je pense que là, en fait, quand on regarde les différentes coalitions, on se dit, bon, bah, qu'est-ce qu'on a en face? Probablement pour le RN, à peu près 50 milliards, et encore, c'est discutable. Donc ça veut dire que dans un cas où ils sont minoritaires, probablement quelqu'un d'autre va essayer de garder un déficit public autour de 5%, ce qui est quand même plus raisonnable, que s'ils ont la majorité où le déficit public aurait probablement une nature d'être au-dessus de 6,5.
Ce que dit Anna est très important.
Oui,
parce que,
c'est ça, parce que... quelle est la marge de manœuvre, c'est alors, ça. Est-ce qu'on peut faire n'importe quoi? C'est ça ma question.
Alors, on n'a jamais eu aussi peu de marge de manœuvre. C'est-à-dire que si vous regardez tous les leviers sur lesquels vous pouvez espérer avoir des marges de manœuvre, vous n'en avez aucun et comme jamais. L'état actuel des finances publiques, jamais eu autant de dettes et des déficits structurels qui
restent.
Et donc là-dessus, rien. Est-ce qu'on peut espérer gagner de l'argent, récupérer de l'argent de l'extérieur?
Non, c'est sûr que non.
Quand vous regardez la position extérieure de la France, ça n'est pas le cas. Quand vous regardez la machine à fabriquer de la richesse, c'est quoi le moteur de la création de richesse le plus puissant? C'est les gains de productivité. Là-dessus, pour le moment, il n'y a pas grand-chose à espérer non plus. Donc, il n'y a strictement aucune marge de manœuvre. Et on voit bien que la force de rappel, elle viendra pas de quoi? Elle viendra pas de l'euro, puisque à l'époque, ok, quand on avait le franc, c'était le cas. Mais là, on voit bien qu'on bénéficie quand même de la protection globale. La seule force de rappel qui peut exister, c'est les taux d'intérêt obligataires, c'est-à-dire le taux de notre dette, et deux, les décisions des investisseurs étrangers.
Alors,
et
ça, je voudrais juste, Emmanuel, que vous nous disiez si, d'un point de vue européen, il y a une sanction réelle qui nous empêche de faire. Parce que
il y a quelque chose que j'ai oublié de dire. C'est qu'effectivement, par rapport à l'Italie, si vous voulez, parce que la petite musique qui est en train de s'installer en France, c'est de dire, mais regardez...
C'est la mélanisation du RR.
Regardez, c'est pas si grave, les entreprises sont plutôt contentes, etc., etc. Mais n'oubliez pas que les fonds européens, justement, et ce qui explique pourquoi Mme Meloni a été aussi conciliante, c'est que, vu les milliards qu'il y avait en jeu venant de Bruxelles...
Évidemment, elle n'avait pas le choix.
Voilà. Et en plus, ces milliards ont eu un impact positif sur la croissance.
Gigantesque.
Donc, le bilan économique de Mme Meloni, il est très largement embelli par ces fonds structurels, dont nous ne bénéficierions en aucun cas. Donc, attention à cette idée qui s'installe.
Ma question, Emmanuel, c'est qui peut interdire à la France de faire n'importe quoi? Qu'on accepte la sanction des marchés, et on va parler de la sanction des marchés, on verra. Imaginons qu'on accepte la sanction des marchés, et que pour d'autres raisons, les taux d'intérêt ne montent pas autant qu'on le craint ou qu'on peut l'espérer si on veut qu'il y ait une sanction des marchés. Qui dit, mais vous ne pouvez pas faire du 8% ou faire du 10% de déficit?
Ça fait 30 ans que la France trahit, année après année, toutes ses promesses de trajectoire budgétaire auprès de l'Europe. Ça n'a jamais eu, pour le moment, aucun impact considérable et personne n'a été capable. Rappelez-vous Jacques Chirac qui disait mais alors qu'est-ce qu'il fait ils vont m'envoyer les chars. Non. Donc non, du, eux, du côté de des autorités officielles européennes, il y aura très peu de force de rappel.
Oui, c'est Léa, ça. C'est les rachats prévus par la BCE peuvent vraiment peser, à mon avis.
Alors, sur la BCE, absolument.
Oui, mais ils n'ont pas intérêt à créer le chaos, la BCE. Je veux dire, ils n'ont pas intérêt à ce qu'il y ait une fragmentation. Ouais. Je veux dire, rappelons qu'ils ont de l'argent aujourd'hui pour lutter contre la fragmentation. La fragmentation, c'est-à-dire que c'est pas sur lutter sur l'ensemble des dettes, mais lutter sur certains pays qui dériveraient. Ils n'ont pas intérêt à faire
l'Italie,
rappelez-vous, quoi qu'il en coûte pour sauver l'euro. Hein.
On peut imaginer que ça joue un rôle de dissuasif, déjà. Ouais. À minima, on peut le voir comme ça, je pense.
Qu'est-ce que ça vous inspire, en vrai ?
Écoutez, moi, je suis peut-être un poil plus optimiste. Je voulais apporter un peu d'optimisme. Alors, c'est peut-être
issu
dû à ma nationalité. Ouais. Vous savez, je suis polonais. La Pologne sort de 8 ans de populisme. Alors, c'est un populisme de droite, donc un peu comme ce qui risque d'arriver ici. Et c'est vrai que le constat qu'on peut en faire, c'est que le populisme de droite, il est plutôt favorable à l'économie, pragmatique. Et je donnerai juste un chiffre. La Pologne, en 2015, quand les populistes ont pris le pouvoir, en PPA, en parité de pouvoir d'achat, représentait à peu près 70% de la moyenne européenne. Aujourd'hui, on est à 80%. Vous voyez, donc ça, il y a eu quand même un gain.
André, quel était l'état des finances publiques polonaises à l'époque?
Très bon, très bon. Il y avait une dette publique de 50%. Et voilà.
Mais aujourd'hui, c'est pas dramatique.
Hein. Mais ils ont laissé les caisses pleines, puisque la dette publique est toujours à 50%. Voilà. Donc, en fait, les populistes ont été raisonnables d'un point de vue économique. Par contre, ils ont clivé la société et ils ont détruit les institutions. Donc ça, c'est le côté triste de ça. Et je dirais, pour le populisme de gauche, on a quand même vécu en France, entre guillemets, alors ils seront offensés de dire ça, mais enfin, aujourd'hui, le programme de Mitterrand pourrait être considéré comme un programme populiste.
Et celui de 80.
81, donc on retourne 45 ans en arrière.
Avec 20% de communistes, on le rappelle, parce que les jeunes ne le savent pas.
Il a vite rétro-pédalé quand même. Et puis après, on a eu des réformes très libérales, les privatisations, enfin en tout cas, quelque chose qui a alimenté une croissance importante dans les années 80, avec un malheureux effet à long terme, c'est-à-dire il a quand même détruit la valeur travail, c'est-à-dire il a introduit ce qui est la gangrène de la société française, c'est-à-dire la désaffection du travail, le désamour du travail. Donc ça, c'est une gangrène lente, mais en tout cas il a vite rétropédalé, et donc je dirais il y a dans ces programmes beaucoup
très
de aujourd'hui
votre éclairage sur la Pologne,
beaucoup,
très intéressant,
beaucoup de démagogie, et on sera malheureusement noyé sous la démagogie, mais in fine, quand les gens prendront le pouvoir, et on ne sait pas qui prendra le pouvoir, ils devront se mettre à raisonner de façon rationnelle.
Oui, mais ce que dit André très bien, c'est que ça dépend aussi de la situation de départ de votre pays. Mm-hmm. Vous aviez des finances publiques très saines, vous aviez besoin d'une politique qui finalement muscle l'offre économique.
Avaient besoin de l'Europe, donc ils ont fait des efforts.
Et vous avez beaucoup profité, mais comme beaucoup de pays avant vous, des fonds européens. Donc, je comprends ça. Là, le problème, c'est que la situation de départ de l'économie française, c'est que c'est une économie qui fondamentalement souffre d'un déficit d'offres et non pas de demandes. C'est-à-dire, on a des entreprises qui ne sont pas assez compétitives, on a un marché du travail sur lequel il n'y a pas assez de qualifications et de manœuvres. Donc, le problème de la France, ça n'est surtout pas d'avoir une politique qui encourage la demande comme la politique du RN ou comme la politique du nouveau Front Populaire, ce serait d'avoir une politique qui muscle notre appareil de production. Et le problème, c'est que ces deux projets politiques-là vont à l'encontre, quelles que soient les idées politiques derrière, de ce qui est nécessaire pour l'économie française.
Léa. Oui, non, mais je suis en ligne, en fait, avec Emmanuel, parce que le problème, c'est que les débats sont pas au bon endroit, et le sujet de la productivité, je reprends la proposition sur l'augmentation des salaires, on oublie, en fait, que le seul moteur d'augmentation des salaires réels, finalement, c'est la productivité du travail. Et donc, ce discours démagogique, et j'aime bien cette image de gangrène sur le travail, on n'en parle pas. On n'a pas de vrai débat, en fait, dans ce...
Je profite de votre présence et de la blague qui n'en était pas une au démarrage. Dans les deux programmes, l'écologie, il y a quand même les écologistes dans le front.
C'est vrai. Non, mais c'est plutôt les priorités budgétaires vont pas aller, en tout cas, sur ce qui
Donc
a
vous
été...
Vous dites c'est cuit, vous, de quel que soit le scénario sur notre sujet.
La problématique, c'est que certaines de ces décisions sont au niveau européen. Je pense par exemple à ce qui se passe sur le moteur thermique. On a entendu très vite le sujet des moteurs thermiques et écarté le fait que cette décision de les arrêter en 2035, elle serait pas tenable. c'est français, mais c'est quand même un sujet européen. Mais clairement, ça va avoir des impacts et il va falloir prendre le temps de les analyser, à mon avis, spécifiquement. Non, mais
très sérieusement, vous vous dites sur mes sujets. Ouais. Pendant quels que soient les deux scénarios, puisque ouais. le troisième, on va le mettre à part.
Oui, je vais vous dire pourquoi, en fait. Je vais faire la différence avec les États-Unis, par exemple. Les États-Unis, on a eu le même débat avec l'arrivée potentielle de Trump au pouvoir, qui est complètement hostile, on va dire, à tout ce qui est vert. Mais tout a été voté, les budgets sont au niveau des entreprises, et c'est déjà parti. En fait, il ne va rien pouvoir y changer. D'accord. Et en plus, la majorité qui sera constituée ne votera pas contre, ou ne remettra pas en question ce qui a été voté
alors
précédemment.
Alors que nous, on n'a rien voté.
Non, c'est pas vrai. Alors, c'est pas d'accord avec ça.
Alors attendez,
Sur
non, au niveau de l'Europe, ce que je veux dire...
C'est là où j'en viens. C'est l'Europe, la situation est différente. Oui, les choses
Elle n'est pas si catastrophique que ça, au sens où on voit bien que le premier mandat de Mme von der Leyen, ça a été le mandat où on a tout mis en place, on a tout lancé. Et le mandat qui vient, ça allait être plutôt un mandat, pas de lancement de nouveaux projets, mais plutôt de mise en place de ce qui a déjà été décidé. Oui. Et ça, je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses qui vont se faire. L'impulsion, elle est déjà donnée.
Ce qui est intéressant dans ce que vous dites, Emmanuel, c'est qu'il faut rappeler aux gens qui nous écoutent que ce que nous vivons en France, on ne le vit pas au niveau de l'Europe, puisqu'au niveau de l'Europe, les élections législatives, certes, ont marqué une poussée de l'extrême droite, mais on a toujours une droite, un centre et un droit républicain. Voilà. Anna.
Moi, je voulais rappeler, dans le programme de RN, il y a quand même 5 milliards au moins de baisse des subventions vertes. Il y a quand même cette baisse de la TVA pour justement consommer plus d'énergie fossile. D'accord ? Donc ça, et c'est la même chose dans le programme de Trump. Il y a 55 milliards de plus de...
Très significatif. J'assistais à la présentation du programme du nouveau Front Populaire. On parle des retraites, on parle du SMIC, etc. Relative à l'écologie et à l'environnement.
Absolument. Emmanuel, je voudrais finir sur le sujet qui nous a opposé avant que vous parliez, en première partie, avant qu'on démarre. Moi, je pense, je me trompe sûrement, comme d'habitude, je pense que les Français ont aussi voulu se révolter ou en tout cas sanctionner la gestion des dépenses publiques. Alors, je vous donne mon argument et je vous laisse le démolir après. C'est que je pense que compte tenu du taux d'épargne qu'on a aujourd'hui en France, qui est à peu près à 18%, alors qu'on n'est pas dans une situation de crise, et donc c'est très rare d'avoir ces 18%, c'est l'indication de la crainte de l'avenir de nos dépenses sociales.
Oui, mais c'est une crainte qui est liée à quoi ? C'est une crainte
qui est liée à la dette et au déficit.
Non, mais de façon indirecte et totalement reliée à la vie quotidienne. Ce qui inquiète les Français aujourd'hui, et c'est pour ça que on voit bien que le bon bilan entre guillemets d'Emmanuel Macron sur l'emploi, etc., ne percole pas dans l'opinion, c'est que ce que voient les gens.
Je suis pas d'accord.
Et ça, c'est l'échec principal.
Un bon bilan déjà.
Non,
je suis choqué par le fait de dire
un bon bilan. Quand vous regardez, quand vous êtes électeur et que vous voyez que vos impôts ont baissé, que vous voyez que le chômage a baissé, que c'est plus facile de trouver du travail, je dis un bon bilan comparé aux autres précédents. Bilan très mauvais sur les finances publiques, mais là où on n'est pas d'accord.
Et bilan sur le chômage très mauvais par rapport aux pays autour de nous.
Oui, mais attendez,
ils sont tous en plein emploi.
Attendez, on est en France regardez les indicateurs du marché du travail, ils n'ont jamais été aussi bons. Sur la dette et les déficits en tant que tels. C'est une abstraction pour les Français. Je vous rappelle cette enquête de la Fondation Jean-Baptiste Say. Il y en a deux tiers. Les deux tiers des Français n'ont aucune idée, mais aucune idée des ordres de grandeur sur la dette.
Ils n'ont aucune idée des ordres de grandeur, mais quand ils voient une dégradation...
En revanche, Marc, ce qui les révolte, c'est d'assister impuissants à l'effondrement de pans entiers du service public, à l'école... à l'hôpital, en matière de sécurité,
et la gabegie de dépenses publiques.
Et c'est ça qu'ils ne comprennent pas. Mais depuis les Gilets jaunes, on le sait, c'est que d'un côté, ils ont l'impression de payer de plus en plus d'impôts et que de l'autre côté, il n'y a plus de services publics. Et c'est ça, aujourd'hui. Le logement plus la dégradation des services publics, voilà pourquoi, politiquement, moi, je pense qu'on en est là aujourd'hui.
Et je pense qu'il faut rajouter aussi le fait qu'on a quand même des facteurs externes qui ont poussé aussi la dégradation des finances publiques.
Non,
il y a les facteurs structurels, parce qu'on n'a pas assez de croissance, qu'on a dépensé.
J'accepte pas cet argument.
Les taux d'intérêt. C'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas et on maîtrisera davantage moins si on a certains scénarios qui se matérialisent.
Il y a d'autres pays, l'Allemagne a les mêmes taux d'intérêt un peu plus bas, ils ont subi la hausse des taux d'intérêt, ils ont toujours...
Non, mais ils n'ont pas le même point de départ aussi. Et d'ailleurs, l'Allemagne, c'est un risque aussi sur la coalition plus tard cette année, puisqu'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur le budget et que Scholz, il a eu la même situation comme le président Macron et qu'il n'a pas activé les mêmes leviers. Mais on aura on aura potentiellement plus d'incertitudes politiques au sein de l'Europe à l'automne, non seulement à cause du Royaume-Uni, de la France, mais peut-être potentiellement. Et donc là, il faut se poser la question sur qu'est-ce qui se passera de cette épargne des Français, 18%, où est-ce que ça va aller dans un certain gouvernement ou un autre, puisqu'on peut aussi.
On se retrouve en deuxième partie de l'émission pour essayer de parler de l'impact sur les taux d'intérêt, parce que les taux d'intérêt, c'est la clé pour vos placements, l'impact sur la bourse, et vous donner quand même des conseils ou des recommandations sur les marchés. On se retrouve tout de suite.
BFM Business, c'est votre argent. Marc Fiorentino.
Et une émission spéciale élection législative, c'est important. On reçoit beaucoup de messages, des questions sur l'économie, sur la finance, sur qu'est-ce qui va se passer. Alors on a essayé de vous éclairer avec Emmanuel Le Chip, avec André Cavalec, avec Léa Dunant-Châtelet, avec Anna Boata, sur déjà l'économie, d'abord les scénarios possibles, qu'est-ce qu'on peut attendre, quel impact, quelle est la marge de manœuvre d'un nouveau gouvernement, est-ce qu'un nouveau gouvernement peut faire tout et aussi n'importe quoi, parce que n'importe quoi, c'est ce qu'on voit aujourd'hui dans les programmes qu'on lit qui ont été présentés. Et maintenant, évidemment, la question qui va se poser pour vous, c'est et votre argent. Alors, je sais qu'il y a d'autres enjeux, il y a des enjeux très importants. On est en démocratie, l'enjeu démocratique, il est très important. Nous, on est une émission d'économie et on va traiter de ça. Alors, vous savez que quand on a un pays qui est sous crise politique, il y a finalement trois marchés qui réagissent. Il y a le marché des changes. C'est l'euro, on est sauvé par le fait que ce soit un peu l'euro. L'euro a baissé, mais on reste à des niveaux qui sont raisonnables. C'est évidemment la bourse, on l'a vu, on va en reparler. Et puis c'est les taux d'intérêt. Alors principalement, ce qu'on regarde, et on va regarder tout de suite l'écart de taux, on s'éloigne un peu plus de l'Allemagne, parce qu'en fait, on regarde pas l'écart de taux, on regarde pas le taux absolu. C'est-à-dire la question, c'est pas de se dire, bah tiens, à combien emprunte la France à 10 ans. C'est important. Pourquoi 10 ans? Parce que c'est le taux de référence. Mais de se dire, est-ce que l'écart de taux entre le taux auquel emprunte l'Allemagne, qui est le taux de référence sur la zone euro, et la France est en train de s'écarter. Plus il y a de crises, plus l'écart de taux est important. Est-ce qu'on est aujourd'hui dans une situation qui commence déjà à être inquiétante en matière d'écart de taux et de taux absolu?
L'écart de taux avait déjà décroché avant l'annonce des élections, parce que la situation des finances publiques, la croissance, le downgrade du rating de la France, mais je pense qu'il y a quelque chose qu'il ne faut pas négliger, c'est le fait que là, sur les 22 points de base de cette semaine, c'est la hausse la plus importante.
Attends, 22 points de base, expliquez-nous.
Par rapport à l'Allemagne, l'OAT 10 ans par rapport à l'Allemagne, au Bund, historiquement, c'est le plus élevé depuis la crise de la souveraine de la zone euro, depuis fin 2011. Donc ça, peut-être qu'on n'a pas ça en tête.
Non, on ne l'a pas en tête.
Et ça se stabilise à ces niveaux-là, parce qu'encore une fois, je pense que la BCE joue un rôle important. Mais il faut aussi se dire qu'est-ce qui se passera, parce qu'en fait, si on se rappelle des niveaux, pendant la crise de la zone euro, on était à 200 en niveau pour le spread. Aujourd'hui, on est à peu près à 50, ça peut aller à 80, et à mon avis, à partir de 80, ça commence à inquiéter, puisque dès qu'on arrive autour de 100,
bah... 80, attendez, j'explique pour les gens qui nous suivent pas, 80, c'est aujourd'hui, les taux allemands sont à peu près 2,60%, 80, ça serait
proche de 3%.
3,40 au-dessus, et aujourd'hui, ce que vous nous dites, c'est qu'on est dans des niveaux qui sont déjà des niveaux, on est à autour de 3,15, 3,20.
Qui sont élevés, mais qui commencent pas encore à inquiéter. Mais si, par exemple, la semaine prochaine, en fonction des annonces, on prend encore 20-25 points de base de plus, on arrive à ce 80.
D'accord.
Proche de ce 80, en tout cas. Et donc, ça commencerait un peu plus à inquiéter. Et évidemment, avec ça, l'effet boule de neige sur les finances publiques, sur le financement de ce programme accommodant de certains partis.
C'est la sanction dont parlait Emmanuel.
Exactement.
Emmanuel, j'ai une question pour vous. Si y a évidemment l'écart de taux par rapport à l'Allemagne, mais il y a aussi le taux absolu. D'accord. Imaginons, parce que c'est ce qu'on est en train de dire, qu'on est dans une situation de marasme économique avec une croissance qui chute. L'inflation est en train de baisser de façon assez forte, on le savait, on l'annonçait ici depuis un moment. Donc le niveau des taux d'intérêt va quand même baisser de façon générale, c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez la crise politique, mais de l'autre côté, vous avez la baisse de l'inflation. Est-ce qui va gagner dans ce bras de fer?
Anna a tout dit, c'est-à-dire que je crois qu'il y a deux choses. Il y a la tendance globale. Et effectivement, mais il faut tenir compte aussi de la spécificité de chaque pays. Et donc la question, c'est effectivement dans quelle mesure la France a sanctionné. Et moi, je pense que ça pourra aller très vite. Regardez quand même.
Mais est-ce qu'on ne sera pas contrebalancé par la baisse générale?
Mais non, parce qu'il y a un moment quand vous entrez. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, on est dans une situation où il se passe rien pendant des jours et des semaines, et que d'un seul coup, ça décroche. Regardez ce qui s'est passé
sur la bourse aussi
au Royaume-Uni en 2022 avec Madame Truss, qui prévoit un plan finalement budgétaire qui n'est pas si éloigné que ça que celui du Rassemblement National. Alors il y a des différences, hein. Il y avait la Banque d'Angleterre qui avait dit attention, faites pas n'importe quoi, et ils ont essayé de faire n'importe quoi, donc ça s'est mal passé, mais ça a été très rapide. La livre a décroché, les taux ont flambé, donc il ne faut pas exclure.
Oui, mais nous on est en zone euro.
Oui, mais il ne faut pas exclure.
On est en zone euro.
Sauf que
sur... on a l'euro.
Oui, la BCE va intervenir.
Sauf que sur nos taux d'intérêt à long terme, encore une fois, je pense qu'on peut avoir quand même un écart significatif.
Mais je pense qu'il faut rappeler qu'est-ce que ça veut dire une intervention de la BCE. Oui. Parce que certes, la BCE va intervenir pour limiter la casse, mais il y a une conditionnalité à cette intervention. C'est pas, donc on parlait tout à l'heure de qui peut contrôler l'état des finances publiques. La BCE est un des acteurs avec la Commission européenne. Donc c'est pas on n'achète pas les obligations des entreprises françaises qui vont prendre peut-être 200 points de base dans la tête par rapport au décrochage de ce, parce qu'en fait il y a des implications. C'est pas juste des obligations d'État, c'est aussi des obligations des entreprises, dont le coût de financement de ces entreprises là françaises, dont les prix des actions, et donc sur les entreprises aujourd'hui la BCE détient 25%.
Ça veut dire qu'il faut oublier l'immobilier, etc.
Oui, donc il y a des répercussions que et à la fin, une conditionnalité si on intervient.
On passe tout de suite au marché, évidemment. Vous avez suivi ça ou pas. Cette semaine, décrochage très violent, quasiment 6% de baisse sur le CAC. Quel contraste avec les marchés américains qui, eux, continuent à être relativement élevés. Si on regarde les chiffres depuis le début de l'année, c'est décourageant, quoi. J'ai regardé ça. Le CAC a quasiment effacé la hausse depuis le début de l'année et le Nasdaq est encore à 17% de hausse. On a eu un début de semaine qui était assez mitigé, c'est un peu ce que disait Emmanuel, c'est-à-dire que on s'est dit bon, globalement, allez, on va pas paniquer, on avait déjà paniqué pour le Brexit, paniqué pour Trump, ça nous a coûté beaucoup d'argent, donc on va se calmer, et puis l'hypothèse du RN, c'est un peu du Meloni. Puis maintenant, il y a la progression du front de gauche, qui inquiète aussi un peu, il y a le climat d'incertitude, et puis on a cette accélération de la baisse. André, je voulais vous parler particulièrement, vous interroger sur un des secteurs qui a le plus baissé en bourse, c'est les banques. Pourquoi ? En fait, on a du mal à comprendre pourquoi ce sont les banques qui ont été sanctionnées.
Alors, les banques sont toujours un condensé de risques. Comme vous savez, les bilans des banques, ce sont plusieurs centaines de milliers de milliards. Alors, pour les deux banques françaises, c'est même des milliers de milliards. Et donc... aujourd'hui, il y a trois types de risques qu'on peut voir sur les banques. Le premier, c'est bien sûr la hausse des spreads, c'est pas bon. La hausse des taux, c'est pas bon parce que ça dévalorise toute la partie détenue à l'actif. Il y a aussi la tentation de certains partis, on a vu ça dans certains des programmes, d'octroyer peut-être des taux après, enfin des prêts à taux bonifié, donc ça ce serait
autant de marge de moins
sur les banques. Certains parlent de lancer un programme de dette nationale, donc ça enlèverait des dépôts qui sont aujourd'hui peu rémunérés, qui sont une source de profit pour les banques. Et enfin, le dernier risque, c'est le risque de taxation. On a vu ça dans tous les gouvernements populistes, ont essayé de taxer les banques.
Ils l'ont fait en Pologne ?
Alors oui, il y a eu des taxes sur les banques en Pologne. Il y a eu aussi, par exemple, des gels de crédit hypothécaire. Quand les taux ont flambé récemment, on a dit, vous avez six mois de vacances de crédit. Ça, c'est une pure perte pour les banques, et y compris pour des banques françaises, parce que BNP Paribas a une filiale grosse en Pologne et qui a souffert de ça. Donc vous voyez, ça c'est pas un risque qui est à prendre à la légère. Il y a des exemples de taxes bancaires récentes aux Pays-Bas, en Italie, et donc la France, il y a un risque clair là-dessus. Mais ce n'est pas le seul secteur qui a souffert.
Non, mais je dirais qu'il a été très sanctionné. Quels ont été les secteurs qui ont été très sanctionnés?
Il y a par exemple les infrastructures. Donc on a parlé tout à l'heure des autoroutes, risque de gel de tarifs, nationalisation. Alors à voir si ça se réalise ou non. Il y a le secteur des renouvelables. Donc le Rassemblement national veut arracher les panneaux photovoltaïques et les éoliennes. Bon, pourquoi pas. Il y aura des indemnités, il y aura des batailles judiciaires. Mais enfin, en tout cas, ça c'est pas bon. En tout cas pour ce secteur, il y a par exemple des utilities comme Engie. Donc c'est vrai que les gens de la Creux, ils ont le sens du timing. Ils annoncent une hausse des prix du gaz 12% le jour où on dissout l'Assemblée nationale. Bravo pour le timing. Bah, c'est sûr qu'on peut être tenté de dire qu'un gouvernement bienveillant pour les populations va essayer de baisser ça. Il y a les télés qui ont bien baissé avec le risque de privatisation des chaînes publiques. Il y a les promoteurs en bourse qui ont bien baissé. Et pourquoi ? Parce qu'on dit maintenant, bah voilà, si c'est le Rassemblement national qui passe, eh bien, il y aura moins de fabrication d'HLM. Ça, c'est la vente... Les HLM, c'est
à peu près... Les logements sociaux, ouais.
À peu près 20% des ventes des grands promoteurs français. Bah, si il y en a moins, bah, ça fait autant de chiffre d'affaires en moins. On coupe aussi sur les travailleurs détachés. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire des prix des travaux qui vont augmenter, les marges qui vont baisser, etc., etc. Donc, il y a beaucoup de secteurs qui ont malheureusement souffert.
Alors, Léa, question que je pose, que je viens de poser à André. Aujourd'hui, si vous avez, parce que moi je reçois plein de questions sur ça, des gens qui ont un portefeuille boursier, et ils ont une question hyper simple. Hein. Qu'est-ce que je fais ? C'est-à-dire, est-ce que je vends ? Est-ce que je sors ? Et bon, vous savez, ici on tourne toujours autour du pot en disant, oui, il ne faut pas paniquer, mais il faut faire attention, puis il faut prendre ses décisions. Voilà, les gens, ils ont leur argent dans les actions. Qu'est-ce qu'ils font ?
C'est la question qu'on s'est posée, nous, toute la semaine avec les équipes. Évidemment, on a plutôt tendance quand même à prendre des bénéfices. Il faut se rappeler quand même qu'on avait eu un marché.
Il y en a des bénéfices,
il y en a encore un peu quand même, selon au cas par cas. Alors il y a eu l'effet très sectoriel évoqué, et évidemment il est clair, c'est lié à tous les sujets, soit régulés, soit épée de Damoclès d'une éventuelle rapprochement de l'État. Je pense notamment au secteur de l'énergie. Mais il y a aussi des secteurs qui ont beaucoup souffert, alors même que finalement, quand on regarde la zone géographique, ne serait-ce que d'intervention, la France n'est pas très présente. Donc il ne faut pas oublier, en fait, il va y avoir une vraie dichotomie, à mon avis, entre les entreprises très liées à la France dans leurs activités ou liées au budget de l'État ou liées à des secteurs stratégiques qui viennent d'être évoqués. Ça, à mon avis, ça va continuer de souffrir encore très longtemps parce qu'il faut voir que la volatilité s'est installée en France et en Europe.
Bien sûr.
C'est pas que la France qui souffre. Et ça, c'est assez intéressant.
L'Allemagne n'est vraiment pas sortie de la crise.
Non, exactement.
Peut-être même pas encore rentrée.
On a embarqué absolument l'intégralité du marché européen. Et là-dedans, sans distinction. Donc, enlever les entreprises qui vont avoir ces problématiques-là, pour moi, c'est une évidence parce qu'on n'aura pas de réponse à court terme. Malheureusement, plus le temps passe et a priori, ça ne va pas s'arranger. Donc
vous
ça
avez
dire...
conscience qu'en disant ça, vous alimentez la panique.
Je suis sur les marchés actions et je vois bien que cette panique, elle s'installe, effectivement. Et donc, à l'inverse, attention, il y a quand même des choses à jouer. On va en parler après sur les valeurs, parce que certaines sociétés souffrent juste de leur drapeau, quelque part, alors qu'elles auront a priori plus d'impact.
J'ai une question pour prendre le problème autrement. Ouais. Est-ce qu'il y a des placements ? Alors, même si
on va en parler, les placements privilégiés.
Ah, voilà.
Non, mais là, je suis juste sur la bourse. Ça fait à peu près 8 ans qu'on a cette rubrique des placements de la semaine, mais Emmanuel a oublié. André, quelqu'un vient vous voir et vous dit, écoute, je sais que toi, ton métier, c'est les actions, mais voilà, dis-moi la vérité, les yeux dans les yeux, qu'est-ce que je fais de mon portefeuille actions ? Vous y dites quoi ?
Nous, on a eu la main lourde lundi. Dès lundi, on a écrété vraiment toutes les valeurs qui étaient dans la liste de celles que j'ai énumérées, avec certaines où on a vendu vraiment de façon très agressive.
Main lourde, c'est-à-dire que vous avez vendu.
On a vendu 10% de nos lignes, de certaines de nos lignes, et pour faire des liquidités. Vous voyez, parce que dans une situation comme celle-ci, il y aura clairement des bonnes affaires à faire, et je pense que le shopping va commencer dans les semaines à venir. C'est peut-être pas encore le bon moment pour investir, parce que je pense que ça va secouer encore dans les prochaines semaines. Vous voyez, je pense que le bon moment pour investir, ça va être vraiment la veille des législatives, la veille peut-être du deuxième tour, où là, la panique sera peut-être à son paroxysme, et où
il y
aura des opportunités. Vous voyez, et donc pour avoir, c'est comme pour tout, hein, pour avoir des munitions, il faut faire des provisions dès maintenant.
Alors, une rubrique nouvelle depuis 8 ans pour Emmanuel, donc c'est le placement de la semaine, justement dans cet environnement. Oui. La question d'Emmanuel est la bonne. Où est-ce qu'on place son argent ?
Je pense que quand même, il faut rappeler que sur les marchés actions, il n'y a pas que l'Europe, et donc effectivement, maintenant, on a vu un peu un rebond de la Chine arriver. Et mine de rien, les émergents reviennent. Ouais, donc, ça peut être l'occasion d'aller un petit peu plus sur cette zone géographique. Les États-Unis, je pense, ne seront absolument pas contaminés par ce qui est en train de se passer chez nous. Et en témoignent leurs très bons chiffres encore. Donc, on peut quand même rester sur le marché actions.
On rappelle qu'il y a des élections en novembre aux États-Unis. Hein.
Oui, oui. Mais l'économie européenne se tient. Enfin, on en parle depuis le début de l'année. On en parle depuis de la, américaine, effectivement. Donc, je pense que là, ça peut être l'occasion de rester au moins
donc
sur ces marchés-là.
Sortir de l'Europe et aller regarder ailleurs.
À court terme. Et puis après, nous, on a plutôt tendance à faire du cash, évidemment, parce que même sur la partie obligataire, malgré le flight to quality très bien décrit en début d'émission, ça va être quand même compliqué d'avoir un peu de visibilité.
Ah, vous dites même pas de placement obligataire, parce qu'aujourd'hui, je me dis quand même, avec une croissance économique qui se casse la figure, un flight to quality, c'est-à-dire des gens qui sortent des actions, et les Français, quand ils sortent des actions, ils achètent des obligations, ils achètent du placement en taux. Vous pensez pas qu'il y aura.
En Europe, il y a quand même un sujet sur tout ce qui va se passer sur les taux et comment ça va impacter nos économies réelles.
Ma question différemment, c'est moi je suis un petit gars qui a une assurance vie qui s'y connaît pas très bien dans tout le magma de l'assurance vie en euros, en valeur, etc. Concrètement,
Les gens qui paniquent, je peux vous le dire, ils vont directement en fonds en euros.
Oui, c'est
d'accord. Donc là, ce qui revient à faire de la liquidité,
c'est l'équivalent du livret A en mieux. C'est la position d'attente. André, quel placement vous dites? Vous dites, je me mets pour l'instant en attente.
Moi, je vais vous dire ici, l'exemple italien peut faire peut-être une bonne référence. Vous voyez, il faut voir l'indice de la bourse italienne. Alors, il est beaucoup plus. Il y a plus de financières dans l'indice italien qu'en France. Il y a 13 valeurs sur les 40 qui sont des financières. En France, c'est à peu près. Oui, il y en a 4 ou 5. Donc, voilà. Donc, c'est quand même un indice moins financier. Il a quand même beaucoup chuté en 22. Je rappelle les élections de Meloni. C'est en septembre 22. L'indice est passé de 28 000. Je parle du MIB FTSE. La bourse de Milan, l'indice italien, passé de 28 000 à 22 000. Vous voyez, c'est quand même une sacrée baisse. Alors, il y avait aussi en 22 la guerre en Ukraine. À partir de mai, quand il y a eu les élections et septembre, l'indice a quand même baissé d'une douzaine de pourcents. Et ensuite, à partir de ce point-là, vous pourrez regarder, il a pris 55% en flèche. D'accord. Vous voyez ? Et donc, alors, il y a des effets peut-être très spécifiques à l'Italie. On en a parlé tout à l'heure. Aujourd'hui, l'indice italien est à 20% au-dessus de son niveau de début 22. L'indice français, on est à 7005 après les baisses d'aujourd'hui, versus 7000 en début 22. Donc, on est un peu plutôt 6-7%. Donc, la bourse accumule du retard. Et il faut savoir que à la bourse parisienne, il n'y a pas que des valeurs qui sont exposées à l'économie française. STM, 1% de son chiffre d'affaires en France. L'Oréal, 4% de son chiffre d'affaires en France. Danone, 8% de son chiffre d'affaires en France.
Mais est-ce qu'on ne devrait pas comparer avec Salvini? Est-ce qu'on ne devrait pas comparer, en fait, pas avec Meloni, mais plutôt avec Salvini? Et si on fait ça, et si on a une majorité RN, par exemple, on a encore probablement 10 à 15% de correction sur les marchés actions à venir.
Très rapidement, je demanderai d'être super rapide. Le top ou le flop de la semaine, Anna Boita?
On va se concentrer sur France, l'Europe et du coup l'économie. On va choisir un flop parce que c'est quand même intéressant. La première semaine de cette situation compliquée en France, une réglementation qui était clé pour les termes de paiement entre les entreprises que l'Europe avait mis sur la table, qui était au sein du Conseil européen, qui visait à réduire les termes de paiement de 60 à 30 jours, avec quelques exceptions. En fait, finalement, elle est bloquée, mais par qui? Par l'Allemagne, par l'Autriche, par l'Irlande, le Portugal, les pays de l'Est. La France n'y fait pas partie et c'est le flop. Pourquoi la France n'y fait pas partie?
J'ai changé d'avis. J'étais sur le flop, je change d'avis, je mets le top parce qu'en fait, je voulais juste marquer un point sur les énergies renouvelables et l'IA qui est arrivé depuis à peu près la semaine dernière et que tout. Qui commence à fleurir sur les marchés, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle, très énergivore, on le sait, mais avec des personnalités intelligentes à la tête des sociétés qui ont décidé d'équiper toute leur capacité de production de panneaux solaires. C'est le premier client maintenant de l'énergie solaire aux États-Unis. Certaines sociétés ont fait plus de 100% sur le dernier mois, juste pour rappeler que des fois ça marche aussi.
Un bon flop. Top ou flop?
Top. Et Léa m'a donné une bonne transition. Je continue sur l'IA. Dans cette bourrasque actuelle, il y a quand même des survivants. Un des survivants, c'est la société Schneider Electric. Absolument. Une très bonne performance. Elle est en hausse de plus de 25% depuis le début de l'année. Et pourquoi? Parce qu'en fait, elle fournit tous les systèmes électriques, tous les réfrigérants aux data centers qui vont être construits dans les prochaines années. Donc Google, Amazon, tous les grands, ce genre d'insu. Donc eux, ils ils vendent leurs produits et du coup ils bénéficient. Alors Schneider, c'est 6% de son chiffre d'affaires en France, c'est une société complètement mondialisée, très belle société qui participe
candidate au marché à venir,
à ce mouvement. Emmanuel, t'as pour
moi aussi l'IA me donne une transition. Mais pas sur l'IA, sur l'énergie. C'est un flop historique, à mon avis, qui est la stratégie, qui est la stratégie énergétique du Rassemblement National, puisqu'en fait, ils nous vendent le nucléaire à tout va, au moment où on voit que le coût d'utilisation et de production du nouveau nucléaire va être beaucoup plus élevé que l'ancien, et au moment où la courbe se croise avec les énergies renouvelables, dont le coût baisse considérablement. Le tout sur, quand vous regardez tous les grands marchés de l'énergie, sur un fond de baisse des prix. Moi, j'ai été frappé par l'AIE cette semaine, qui nous dit qu'il va y avoir une surproduction de pétrole, qui laisse penser que le pétrole va être bas. L'électricité, le gaz, ça va être moins cher, et ils vont dilapider de l'argent public pour faire baisser ça. Donc je trouve que cette stratégie énergétique est, parce que le moment où on décide, c'est voilà, c'est important aussi.
Allez,
une
on
décision
passe
n'est pas bonne ou mauvaise en soi.
On passe tout de suite, très rapidement, parce qu'on est vraiment à la bourre, le top 3 des géants. Pierre Chang, je voudrais les écouter sur les valeurs. Pierre Chang sur 10% de hausse, Frédéric Rosier 9,4%, Sébastien Corcha 8,9%, et maintenant j'ai besoin d'une musique qui fait peur. Léa, la France vous regarde.
Ouais.
Vous l'avez fait paniquer déjà en disant qu'il fallait tout vendre. Alors, est-ce qu'on va liquider tout le portefeuille? Je vous donne vos actions, vous me dites ce qu'on fait. On a du Dassault Systèmes.
On garde.
On a du ID Logistics.
On garde.
On a du Rational.
On garde.
Bah, vous allez gérer. Alors, on a du A-Systèmes.
Alors non, on va vendre justement. Pour
bon, belle progression, bravo. Novo Nordisk.
On garde.
Biomérieux.
On garde.
EDPR.
On garde.
Iberdrola.
On garde.
Bah,
Non, parce que c'est trop diversifié, c'est
Lonza,
c'est même très intéressant. On garde.
Essilor Luxottica.
On garde.
Bureau Veritas.
On garde.
Geberit.
On garde.
Givaudan.
On garde.
SPI.
On vend.
D'accord. Pourquoi vous vendez, juste en deux mots?
Deux sociétés très franco-françaises, très assimilées effectivement à la politique sur le nucléaire à venir si le contexte se confirme, qui ont fait des super parcours, qui plus est. Très petites aussi, donc moins liquides que d'autres.
OP Mobilité, ancien Plastic
Omnium. Plastic Omnium, absolument, on garde.
Et qu'est-ce qu'on achète?
Eh bien, on n'achète rien. Je pense que c'est trop tôt, c'est ce qui vient d'être dit. Alors moi, j'étais arrivée avec une super idée avant le week-end dernier sur ça y est, la capitulation sur le green est terminée. Et ça, c'est vu quand même sur les marchés.
C'est quoi, ça veut dire quoi?
Alors, on a eu quand même 2 ans de baisse. Le S&P Clean Energy, sur les 2 dernières années en lycée, fait quasiment moins 80%, après un pic depuis sa création à plus 275%. Pic fin 2020, début 2021. Et premier trimestre de cette année, je pense que tout le secteur du green, pas que les énergies renouvelables, ont connu la pire performance en relatif aux indices génériques, peut-être 15 points d'écart quasiment à la baisse, qui est pour moi une capitulation. Capitulation, en général, c'est le moment de revenir. Et effectivement, on a des remonts très intéressants.
Et donc, c'est la capitulation n'a pas eu tout à fait lieu, on va l'attendre. Et la musique qui fait peur. André, ça va? Vous n'avez pas peur, non? Un peu? Alors, je vous donne les actions que vous avez en portefeuille. Vous avez du Alten.
On garde.
Vous avez du BNP.
On garde parce qu'en fait le titre a bien baissé déjà. Donc nous on en a
vous avez allégé déjà.
On a allégé en début de semaine, mais là au prix actuel je garde.
Stellantis.
Je garde.
Vivendi.
Je garde.
Téléperformance.
Je garde aussi.
Technip Energy.
Je garde.
LDC, on va toujours manger des poulets, non?
Bah c'est mieux que du bœuf.
Airbus.
Je garde.
Ryanair.
Je garde.
Saint-Gobain, j'imagine que vous gardez.
Je garde.
On est très opposés.
On n'achète rien, puisque...
Ah ben
moi,
non,
je pense...
vous pouvez même faire ça. J'ai fait presser tout le monde pour vous laisser du temps.
Je pense que les soldes ne sont pas encore totalement arrivés. Et non, je pense que le timing, c'est très important pour vos lecteurs. Parfois, en bourse, c'est comme... Enfin, le plus dur, c'est de ne rien faire. Vous voyez, on est toujours chatouillé par l'action, mais le plus dur, c'est de ne rien faire. Donc moi, je dirais, à ceux qui veulent faire des choses, éteignez la télé, allumez votre écran boursier le 7 juillet et là il y aura peut-être des très bonnes affaires à faire.
Ou plutôt le 8 parce que ça
ou le 8, voilà.
Vous comprenez Léa que c'est un tout petit peu étonnant que vous disiez ben non, moi je suis très prudente sur la bourse et je pense qu'il faut s'alléger, revenir plus tard, et que quand je vous donne votre portefeuille vous gardiez quand même pas mal de valeurs.
Oui, et ben alors très très bon point, ça permet de faire le lien avec son portefeuille.
Très bon
puisque
point, c'est
mais
sympa.
Oui, ah, je suis obligée, sinon vous me faites pas revenir. Alors
allez-y.
En fait moi j'ai un portefeuille extrêmement défensif, beaucoup de santé, d'entreprises, on parlait d'Iberdrola qui sont quand quand même sur des cycles a priori assez visibles. Donc là, honnêtement, c'est pas des entreprises qui vont beaucoup souffrir a priori quand même, et qui n'ont d'ailleurs pas beaucoup souffert depuis la baisse du début de la semaine. Donc je suis pas inquiète, je peux les garder.
D'accord, donc vous dites à la limite prendre des valeurs ou garder des valeurs défensives périodes-là, c'est quelque chose qu'il faut privilégier.
N'oubliez pas qu'en gérant action comme moi, on est obligé de rester investi. C'est quand même une logique totalement différente. C'est pour ça qu'en tant que particulier, j'aurais plutôt tendance à m'alléger vraiment significativement. Ouais. Moi, j'ai une exposition action qui est au moins 80%. Il faut bien que j'ai quelque chose dans mon portefeuille. Les valeurs défensives souffrent moins dans ces périodes-là, c'est évident, donc on peut les garder.
En tout cas, je dois dire que j'ai trouvé que c'était hyper clair et très passionnant et très intéressant de vous écouter tous. Merci de nous avoir suivis. Merci donc à nos invités. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission spéciale législative. Ça sera comme ça jusqu'aux législatives. Dont je peux déjà vous annoncer qu'elle sera spéciale. Et surtout, n'oubliez pas que vous pouvez nous écouter, nous voir, nous revoir en replay, en podcast sur toutes les plateformes. Et n'oubliez pas l'émission d'Emmanuel. Un petit mot, Emmanuel ?
La librairie de l'écho. Alors, on fait un pas de côté.
Allez.
Et on s'inspire des animaux. Vous voyez, avec un livre qui s'appelle La stratégie de l'opossum et l'autre La stratégie du cafard. La boîte cafard, c'est celle qui résiste à tout. Voilà.
Quel teasing.
En ce moment, c'est vrai que la boîte cafard, par rapport à la boîte licorne, je peux vous dire qu'elle résiste à tout.
Allez, devenons tous des cafards. À bientôt.
Voilà.